voyez Gaëtan, je vais prendre un micro, je me sentirai plus libre de pouvoir me déplacer un peu comme ça. Bon, en attendant, je me présente déjà, on m'a demandé de me présenter un petit peu. Donc Jérémy, Maria, Sarah, plusieurs casquettes. Donc, je suis coordinateur jeunesse pour le réseau Angélique Suisse, donc je travaille à 20% pour le réseau. Donc mon but, c'est de faire en sorte que la voix des jeunes soit entendue au sein des pasteurs et au sein des jeunes qui se rappellent qu'une église locale est existante. Donc c'est un peu un fardeau qui est sur mon cœur, le côté multigénérationnel aussi. À côté de ça, j'ai implanté deux églises. Actuellement, là, je suis sur la deuxième église. Magnifique, pas encore, ça joue, parfait. C'est bon, là. Bien joué. Travail d'équipe, c'est bon ça. Donc voilà, j'ai implanté deux églises, j'ai vraiment à cœur l'implantation d'églises. Actuellement, je suis aussi pasteur d'une église frais à Estavayer-Lac. J'ai tellement à cœur l'implantation d'églises que je suis en train de finir ma dernière année de master en missiologie et implantation d'églises à la faculté de Vaux-sur-Seine, donc en France. C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. Je crois que aussi l'implantation est des fois plus facile pour le non-chrétien de franchir la porte d'une maison, d'une église un peu plus fraîche, qui font moins le côté église impressionnant que des fois on peut avoir. Et j'aime voir cette multiplication. Donc voilà un peu mon cœur. J'enseigne aussi dans une école théologique. Enfin voilà, j'ai plusieurs casquettes, mais un petit peu qui je suis. Merci vraiment à l'invitation aussi. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être là avec vous. Beaucoup prié. J'ai l'impression qu'il y avait tellement de sujets que j'avais envie de parler. On m'a demandé de parler justement de... le premier mail me demandait de donner du dynamisme et de la puissance. Le deuxième entretien me parlait justement plutôt de l'intergénérationnel. J'ai prié, j'ai reçu un premier message. En fait, j'ai changé de message. Enfin, voilà. Mais je crois que ce qu'il y a là, c'est ce que Dieu veut. Mais c'est ça, des fois, qui est particulier. C'est qu'on a tellement de choses sur nos cœurs qu'on a envie de dire. Et une prédication, des fois, ne suffit pas. Mais heureusement, on a l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et Daisy, ce matin, merci pour ce que tu as amené. Ça m'a confirmé dans les choses que tu as dites qu'au final, j'avais choisi le bon message. Donc, j'aime l'Esprit de Dieu. Ça tombe bien. Le titre de mon message ce matin, c'est « Maturer avec l'Esprit afin de bâtir pour l'éternité ». Donc, je vais me baser sur 1 Corinthiens 3 pour donner un petit peu de contexte. Dans les deux premiers chapitres d'1 Corinthiens, on a Paul qui vient un peu tirer les oreilles de l'église de Corinthe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de se diviser à cause de partis, tout simplement, parce qu'il y en a qui se disent de Paul, d'autres se disent d'Apollos, d'autres se disent de Pierre, d'autres se disent de Christ. Qui a tort, qui a raison ? Il y a un petit peu quelque chose qui est mis en lumière, c'est que c'est beaucoup une question de partis, de dire ben moi je suis plutôt de Paul parce que c'est un gars qui est plutôt de ma tranche, c'est un Manuel qui a un job. Il y en a qui se disent je suis plutôt d'Apollos parce qu'ils sont plutôt intellectuels, ça rejoint les philosophes, ça rejoint les Grecs. Il y en a qui se disent de Pierre, pourquoi ? Parce qu'ils sont plutôt juifs de nationalité, donc le côté des lois. Puis il y en a qui sont très orgueilleux puis qui se disent de Christ, très impressionnant quand on lit ce passage de savoir que ceux qui se disent de Christ se sentent au-dessus des autres parce qu'ils se disent en fait nous on est de Christ, vous pas. Donc en fait il y a toute une espèce de division qui est là, de partis. Et c'est quelque chose qui me parle tellement, parce que justement, aussi, si je reprends la jeune génération, aujourd'hui, eux, ils ne se sentent plus appartenir à part à l'Église. Et ça, c'est ce que je vois. Moi, je travaille avec, on a à peu près une trentaine de fédérations d'Églises en Suisse, dont la FRE, il y a le Réveil, il y a l'Armée du Salut, il y en a plein, il y en a aussi spécifiques dans le Jura. Il y a des fédérations qui sont que dans le Jura et pas dans le reste de la Suisse. Mais toutes ces fédérations-là, en fait, nous, des fois, on va se dire, ben, j'appartiens à la FRE et tout ça, mais un jeune, aujourd'hui, il s'appartient au royaume. Donc des fois je vois un petit peu ça. On a aussi un petit peu aujourd'hui, et je dois le reconnaître au niveau sociétal, on parle de génération X, de génération boomer, de génération Z, de génération alpha, on parle de tout ça. Et il y a aussi un petit peu le ben, « je revendique ma génération ». Moi je suis un boomer ou je suis la génération alpha, celle qui est actuelle, je crois qu'on commence gentiment sur les bêta là. Donc voilà, tout ça en fait c'est des choses qui font qu'on peut se sentir appartenir. Et le problème c'est qu'un auteur que je lisais disait « On a beau être chrétien, on reste humain, et dans le fait d'être humain, on appartient à un parti. Et si on appartient à un parti parce qu'on a pris position, on devient forcément des anti-opposants. Politiquement, si on est de droite, on est plutôt des anti-gauches, ou l'inverse. » C'est un peu ça. Si on aime le noir, on est anti-blanc. Il y a un peu quelque chose avec ça. Et le problème, c'est qu'avec Dieu, tout n'est pas tout noir ou tout n'est pas tout blanc. Et justement, ce que Paul veut mettre en lumière dans Corinthiens, c'est l'unité. Et c'est un petit peu le problème qu'il y a sur Corinthe. Et je pense que dans beaucoup de nos églises, on a ça, entre les générations aussi. Un petit problème qu'on veut défendre. Et j'aime un pasteur dans la région morgienne qui dit, et j'aime beaucoup comment il résume ça, l'intergénérationnalité dans les églises, c'est mettre la musique d'aujourd'hui au volume des aînés. Et j'aime assez ça, en fait. C'est comment collaborer ensemble. Et à partir de là, Daisy, tu as dit justement dans ta présidence au début, tu as parlé d'un Corinthiens 12, donc on est dans un Corinthiens, ça tombe plutôt bien. Tu as parlé des dons, et je vais y venir. On a tous reçu des dons. Et c'est ces dons-là qu'on va mettre au service de Dieu. Et justement, dès le départ, Paul va aux Corinthiens leur parler de cette unité. Il dit au tout début d'un Corinthiens 3, je vais les lire un peu au fur et à mesure, on peut être sauvé, on peut être aimé, on peut aimer le Seigneur, on peut être fidèle aux réunions, et pourtant on peut rester spirituellement immature. C'est ce que Paul va mettre un petit peu dès le départ. L'église de Corinthe était une église très dynamique, très active. Corinthe était un lieu où tout se passait. Nous avons eu la chance d'y être avec justement Tabitha, ma femme, justement avec Bible 4D, et de voir que c'était un endroit très stratégique. Les dons spirituels étaient vécus. Il y avait vraiment quelque chose là-dedans. La vie communautaire était vraiment active. Il se passait quelque chose, autant dans la ville que dans la communauté. Et pourtant, Paul va leur dire, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il est en train de parler de l'immaturité. Et en fait, ce chapitre nous pose une question qui est essentielle. Est-ce que je suis en train de grandir spirituellement, ou est-ce que j'existe juste spirituellement ? C'est un petit peu ça, ce que Paul est en train de mettre en lumière. Et ces quatre premiers versets vont nous parler de cette immaturité. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Ce signe d'immaturité que Paul est en train de dénoncer se voit par justement ces jalousies, ces querelles, ces esprits de parti. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que Dieu veut mettre en lumière dans nos vies. Le fait de rester dans cette dimension charnelle, de chercher à se comparer, de voir qu'est-ce que j'ai de mieux ou j'ai de moins, d'être en dehors de cette unité-là, montre une certaine immaturité spirituelle. Et ça doit nous interpeller, de me dire il y a un but de croissance spirituelle. C'est une des volontés de Dieu, c'est qu'on soit à la ressemblance de Christ, qu'on diminue afin que lui puisse croître. Mais le problème, c'est que ces jalousies, le fait de regarder, et malheureusement le monde dans lequel on vit aujourd'hui, nous pousse à cette jalousie, nous pousse à cette convoitise, nous pousse à cette comparaison. Tout est fait pour que l'homme se compare. Il nous a donné du lait et non de la nourriture solide. Ça veut dire qu'ils sont en train de passer à quelque chose. Ça veut dire quelque chose de plus solide. Mais pour l'instant, il y a cette première étape pour eux. Il ne dit pas qu'ils ne sont pas sauvés. Il est en train de parler d'une immaturité. Et on ne peut pas mélanger ça. Le mot charnel, quand il dit « n'êtes-vous pas charnel », signifie la nature humaine. Et cette nature humaine ne signifie pas justement qu'ils n'avaient pas l'esprit. Ils ont l'esprit, mais pourtant ils vivent selon la chair. Et c'est ça que Paul veut mettre en lumière, c'est de dire « là, vous raisonnez et vous vivez comme des hommes charnels ». Et non des personnes remplies d'esprit, alors que vous avez l'esprit. Il est en train de les reprendre. Mais ça, ce n'est pas une attitude correcte. Et ça se manifeste justement dans le « moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos », etc. En fait, ils veulent appartenir. Ils veulent être dans quelque chose qui peut-être les rassure. Autrement dit, comparaison, rivalité. Et c'est un attachement excessif à des hommes. Et je me rends compte dans des situations, dans le leadership, des fois en tant que pasteur, on nous met un petit peu au-dessus de Jésus. Ce n'est pas un pasteur qui fait la différence, c'est Christ. Pourquoi ? Parce que ça a été dit par la sœur ce matin, c'est les dons. Que je prêche ce matin, que je le fasse bien ou pas, peu importe votre avis, il y a un don qui est donné par Dieu. Et la gloire, elle va à Dieu. Et en fait, c'est un don que Dieu a donné, parce que moi, je me rappelle d'une chose, c'est que quand j'étais gosse à l'école, la chose que j'aimais faire, que tout le monde détestait, c'est des exposés. Mais j'étais pas du tout en Christ à cette époque-là, je me suis converti à 27 ans. Mais en fait, ça prouve aujourd'hui que le don à Dieu me l'avait donné dès le départ. J'aimais être devant et m'exprimer. Et c'est facile pour moi. Mais c'est un don. Mais ce don, comment il est utilisé ? Et souvent, bien évidemment, quand on est devant, quand on a des gens qui lident, là, comme Paul l'a fait à Corinthe, ben on a envie de mettre ces gens sur un piédestal. Et en fait, c'est Christ qui doit reprendre toute la place. Et se rappeler que derrière chaque homme et chaque femme de Dieu qui est en train de servir, que ce soit à la prédication, la présidence, la louange, le leadership, peu importe, c'est des gens qui sont remplis de l'Esprit, qui sont remplis de Dieu. Et cette puissance, c'est l'Esprit. Acte 1:8, vous recevrez une puissance et alors vous serez mes témoins. Et c'est par cette puissance-là qu'on peut agir. Donc une église peut être active, mais sa croissance peut être bloquée. Et le charnel peut bloquer la croissance de l'église. Une personne peut vivre les dons de l'esprit, peut agir selon Dieu, mais elle peut être encore un enfant spirituel. Parce que ce que Paul veut montrer là-dedans, c'est que le caractère n'est pas encore travaillé. Et j'enseigne à la Startup Ministry justement sur le discipulat. Qu'est-ce que c'est réellement que le discipulat ? Et moi, j'aime dire toujours cette phrase, c'est le caractère avant l'onction. Parce que l'onction de Dieu, elle est là. Et entre guillemets, même quand tu es dans un mauvais jour, comme Roger Federer sur un terrain, ben, y a quand même Dieu qui agit. Parce que ce n'est pas ma manière de parler qui fait, c'est ce que l'Esprit agit dans vos cœurs. Mais par contre, je peux rester un enfant spirituel et être immature. Et ce que lui, Dieu, me demande, c'est de travailler à mon caractère, c'est de me laisser tailler par le potier, c'est d'être transformé, de rentrer dans cette vie par l'Esprit, de travailler à l'unité, de travailler avec mes frères et sœurs, d'être dans le corps, et pas juste de me centrer sur moi. Et la maturité se mesure à la transformation du caractère. Une maturité spirituelle se transforme à ça. On le voit dans 1 Jean, petits enfants, jeunes gens, père et mère. Et on devient père et mère, ça nous rend mature aussi. Et il y a quelque chose qui se passe et on voit cette croissance qui nous est donnée. Dans les versets 5 à 9, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? C'est quoi 5 à 9 ? Ouais, pardon. Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ces hommes-là sont juste des serviteurs. Et ils veulent les mettre sur un piédestal, enlever Christ de cette marche qui est au-dessus de toute marche. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Paul plante, Apollos arrose, mais la clé, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que vous savez, j'entends dans beaucoup d'églises, ouais, mais c'est Dieu qui bâtit son église. Oui, mais avec des ouvriers qui sont en action. J'aime entendre, il faut être avant de faire. Oui, amen. Mais si ton être n'amène pas au faire, il faut remettre en question ton être. Parce que sinon, c'est simple, on se décharge sur Dieu. Mais j'aime cette phrase de Christopher Wright, qui est un missiologue, et qui dit, mais en fait, Dieu n'a pas créé une mission pour son Église, mais Dieu a créé une Église pour sa mission. Parce que la mission, à la toute base, c'est que Dieu se fasse connaître à toutes les nations. Donc l'Église, elle est là pour quoi ? Pour révéler qui est Christ aux nations. Donc ça veut dire qu'on est appelé à faire. Et Paul a planté, et Apollos a arrosé. Qu'est-ce qui se serait passé si Paul n'avait pas planté et si Apollos n'aurait pas arrosé ? Pas grand-chose. Donc j'aime aussi remettre notre responsabilité là-dedans. Quand Paul dit « j'ai planté », ça évoque une implantation d'église à Corinthe. Mais une fois qu'il a implanté, l'œuvre n'est pas finie. Et chacun ses dons. Moi, je me reconnais beaucoup plus dans un Paul. On implante après, on va implanter ailleurs. Mais il faut que quelqu'un reprenne ça. Il y a des plantes, il y a quelque chose. Il faut arroser, il faut prendre soin de ces plantes. Et c'est ce que Apollos est en train de faire. Mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. L'implanteur d'église n'est pas plus exceptionnel ou celui qui prend soin n'est pas plus exceptionnel. Non. Ils sont tous les deux avec des dons qu'ils ont reçus de Dieu. Et on a besoin des deux. Des fois, on a de la peine à s'entendre, c'est vrai. Parce qu'il y en a un qui veut toujours regarder sur l'extérieur, puis l'autre qui dit, mais il faut déjà prendre soin des plantes à l'intérieur. Non, non, mais attends, mais regarde encore tout le champ, là, on va encore planter des tulipes, là. Il faut y aller un peu. Donc on se frotte. Mais on peut se frotter dans l'amour. Mais en fait, ça ne sert à rien de les opposer. Il faut les voir dans ce travail d'unité, là. Et ces deux choses sont décisives. Les deux sont décisives. Mais c'est Dieu qui va faire croître derrière. Quand à Jérusalem, dans Actes, là, il prêche et qu'il y a 3000 conversions, ce n'est pas les orateurs qui étaient exceptionnels. C'est le Saint-Esprit qui a été exceptionnel. Et ça, on doit reprendre à chaque fois cette dimension-là. Parce que sinon, on serait tous des mauvais prédicateurs. On serait tous des mauvais témoins si c'était uniquement par nos capacités. Donc heureusement que c'est l'Esprit qui fait derrière et que c'est Dieu qui fait croître. Mais pourtant, Dieu a voulu que Paul plante et que Apollos arrose. Il a voulu ça. Et dans toutes les églises, il y a des prédicateurs, de très bons prédicateurs, il y a des enseignants qui sont aussi très bons, il y a des leaders qui sont très bons. Mais aucune de ces personnes ne peut donner la vie spirituelle et la faire croître. Et dernièrement, pour les plus jeunes, il y en a qui étaient à la RJ Login, une journée pour les responsables de groupes de jeunes en Suisse romande. Il parlait que des fois, on se bloque un petit peu trop sur le messager au lieu du message. Et j'ai aimé ça. Parce que des fois, la personne qui est devant, s'il est exceptionnel, qu'il a du charisme, on l'écoute, puis on dit amen. Puis si le gars, il ne paye pas de mine, puis qu'il bégaye un peu, puis qu'il ne fait pas très bien, ben on écoute un peu moins. Et pourtant, peut-être que son message est bien meilleur que le charismatique. Mais malheureusement, on reste des fois trop sur le message, et aller écouter la profondeur du message. Mais nous devons nous rappeler qu'aucun de ces hommes, aucune de ces femmes ne peut faire grandir votre vie spirituelle. C'est que Dieu qui va faire croître ça. Et le danger, justement, c'est de mettre notre confiance dans un pasteur, c'est de mettre notre confiance dans un lieu, c'est de mettre notre confiance dans une théologie, c'est de mettre notre confiance dans un certain style. Là, ça va faire 6 ans consécutifs que je me forme en théologie. Je vous avoue, j'en ai marre. Je suis passionné et j'aime ça. Mais il y a un moment, ces débats-là... Oh. Moi, je veux voir le royaume de Dieu avancer. Puis il y a des débats, à part juste débattre, ils ne servent à rien. Vous savez, j'ai un gars dans mon église, je l'aime vraiment tout plein. Et j'aime passer du temps avec lui. Mais ce qu'il aime, c'est débattre. Moi, j'aimerais plutôt te voir aller un petit peu parler de Jésus autour de toi, plutôt que de débattre, savoir quelle est la meilleure théologie. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de savoir, mais il faut mettre en place. Et vous savez, dans le judaïsme, quand un rabbi enseignait, on partait du principe que tu avais compris uniquement quand tu avais redit à 3 personnes ce que tu avais été enseigné et que tu mettais en pratique. Si tu ne pratiques pas et tu redonnes pas ce que tu as reçu, on part du principe que tu n'as pas acquéri l'enseignement. Si on ferait ça avec nos églises le dimanche, je nous laisse nous positionner chacun. Mais voilà, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la personnalité, ce n'est pas le style. C'est l'esprit qui est derrière. Paul dit, celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien. Ce n'est pas une fausse humilité, c'est une vérité spirituelle. Et on doit se rappeler tous de ça en tant que serviteurs. Mais en même temps, moi ça me décharge. Moi, ça me décharge du résultat. Et vous savez, sur la première église que j'ai implantée, j'avais une telle pression. Mais t'as combien de convertis? Puis t'as combien de baptêmes? Et puis ci, et puis ça. Oh, puis il faut répondre à tout ça avec une telle pression. Et aujourd'hui, ça ne me fait ni chaud ni froid. Fais, et je fais. On travaille ensemble pour le même. Et on s'en fout du résultat, parce que le résultat ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Alors bien sûr, il y a le fait d'être mis en action. Si je reste chez moi et que je fais rien, oui, il y a un problème quand même. Mais si on est à l'œuvre, c'est le timing de Dieu. Et c'est lui qui fait. Et moi, ça me libère. On est collaborateur de Dieu, on est ouvrier dans son champ, comme il le dit. Mais la vie, elle vient de lui. Versets 10 et 11, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Avant Paul, rejoignez sur la dimension de la terre, le côté de planter, et là maintenant, architecte, construire, bâtir. En fait, il veut dire la même chose. Sauf qu'il y a un but qui est complètement différent. Là, il veut parler du fondement. Il veut montrer qu'il y en a un qui fait quelque chose et l'autre autre chose, tout comme l'autre exemple qu'il donne avec le fait de planter et d'arroser. Sauf que là, il va mettre encore quelque chose de plus important, c'est le fondement. Il va nous parler de ce fondement qui ne change pas. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Le fondement est clair, il est unique, inchangeable. Donc le problème n'est pas le fondement, quoique suivant où, en suivant quelle dérive, bien évidemment qu'on peut remettre ça en question. Mais je pars du principe que nos églises évangéliques, qui sont cadrées dans une fédération, cadrées avec un réseau qui est autour, n'a pas ces problèmes-là de fondement de Christ avec le credo et nos confessions de foi. Mais le problème, c'est la manière dont nous bâtissons au-dessus de ce fondement. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on bâtit ? On peut fonder sur Christ et pourtant construire avec de l'orgueil, avec de l'ambition personnelle, avec du « waouh », du spectaculaire, ou avec de l'émotion qui est passagère. On peut bâtir avec plein de choses. Et le problème qu'on a dans cette division, c'est que je vais caricaturer. Mais il y a la team, mais on a toujours fait comme ça, on ne va quand même pas changer. Puis à la team, il faut tout changer. Je caricature et je prends les deux extrêmes. Hein. Mais moi, je suis dans beaucoup d'églises. Ben, c'est quand même une constatation. Et mon cœur, c'est de coacher, d'accompagner des églises, des groupes de jeunes, justement, dans le fait de devenir plus missionnel, de revitaliser les églises. Et je vois ce problème-là. Et il y a un moment, la Bible, elle est claire. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Alors, comment faire ? Et je pense que c'est là où Dieu m'a placé à cette place pour le réseau évangélique suisse. C'est que je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on peut faire un pont entre ces générations. Sur ce qu'on bâtit dessus, ensemble. Mais pour ça, il faut s'écouter. Et vous savez, dans un couple, souvent, il y en a un qui pense noir et un qui pense blanc. Et c'est bien de faire des concessions. C'est bien de faire du compromis, pardon. Puis de faire du gris. Mais il va se passer quoi sur le long terme avec le gris ? C'est que tous les deux sont frustrés. Donc des fois, c'est là où il faut faire des concessions. Puis dire, ben, cette fois, on fait noir. Ou cette fois, on fait blanc. Le compromis dans l'Église, au bout d'un moment, ça amène à la division et à la révolte. Parce qu'au final, ça plaît à personne. Mais chacun doit faire des concessions. Est-ce qu'on mettrait de la musique un peu plus jeune, mais un peu moins forte, pour reprendre un peu cette image ? Mais pour ça, ça demande d'être assis, ça demande de discuter, ça demande de chercher la face de Dieu, ça demande de sortir de ce que Paul est en train de dire. Je suis obligé de vous parler comme à des hommes charnels et non spirituels. Parce qu'on veut tailler notre bout, défendre notre bout de gras, comme on dit chez nous, et on prêche pour notre parti, comme on dit aussi chez nous. Mais ce n'est pas ça, maturer avec l'esprit. Et ce n'est pas ça, bâtir pour l'éternité. C'est ensemble. Et c'est ensemble qu'on peut maturer avec l'esprit. Et c'est ensemble qu'on peut bâtir pour l'éternité. Mais ça demande de sortir de ce que le monde veut nous dire, de X ou Y génération, de X ou Y parti, de X ou Y manière de penser. Qu'est-ce que Dieu veut ? Et j'entends trop souvent de dire on va créer quelque chose et puis on va le reproduire. Si ça marche dans cette église, on va le reproduire ailleurs. Mais ça, c'est pas du tout. C'est l'inverse de ce que j'apprends. Ce qui marche à Reconvilier ne marchera pas à Estavayer ou vice-versa. Il y a peut-être une ou deux choses qui seront similaires. Mais peut-être que la stratégie, elle est complètement différente. Mais on veut toujours reproduire parce que là-bas, ça marche. Comment on bâtit ? La question n'est pas, est-ce qu'on est sur le fondement ? Si le fondement est Christ, la question ne se pose pas. Mais c'est avec quoi construit-on ? sur ce fondement. C'est quoi qu'on veut construire? C'est quoi qu'on veut bâtir? C'est quoi qu'on veut? Puis en même temps, ben, qu'est-ce que Dieu veut? Et quels sont les dieux, les dons, comme Daisy l'a dit, qui nous sont donnés à vous, communauté, pour bâtir ensemble? Alors des fois, c'est là où on a besoin de se dire, ok, il nous manque vraiment ce don. Il faut qu'on cherche quelqu'un, un leader, un pasteur, un ancien, qui a ce don-là pour répondre aussi à ça. Mais vous savez, ce que j'aime énormément dans cette formation que je suis en train de vivre, c'est que la plupart des profs nous disent la même chose. Les ressources sont à l'extérieur. Et il y a un moment, quand on dit, mais Seigneur, tu vois chez nous là, personne n'a ce don-là. Puis Dieu nous rappelle, hé les amis, je n'ai pas créé l'Église pour qu'elle soit centrée sur elle-même, mais centrée sur l'extérieur. Et les dons que vous me demandez, en fait, il faut juste vous mettre en action parce qu'ils sont dehors. Vos futurs louangeurs, vos futurs jeunes, vos futurs présidents, prédicateurs, ils sont peut-être dehors dans vos villages. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais ça nous demande de prendre en responsabilité aussi. Mais les ressources, on les a toujours, parce que Dieu pourvoit. Donc avec quoi on construit sur ce fondement? Avec ce qu'on a? Ou avec ce que Dieu a pour nous? Mais si on bâtit avec ce que Dieu a pour nous, ça nous demande une mise en action. Et ça nous fait peur, ça nous dérange. Mais je vous assure d'une chose, c'est quand j'observe la nouvelle génération, eux, ils n'en ont pas peur. J'aimerais vous encourager un peu. Je ne sais pas si vous connaissez le ministère de Box Up, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Box Up, c'est un ministère qui s'est lancé sur Moudon. C'est des jeunes qui se sont dit, c'est un peu la galère à Moudon, il faut qu'on, ces jeunes qui sont dans la violence, il faut qu'on les prenne, il faut qu'on fasse un truc de boxe, où on fait un échauffement, un peu de boxe, et à la fin, ils font le cycle time, où ils se mettent en rond et ils parlent de Jésus. Actuellement, en Suisse, chaque semaine, il y a entre 250 à 270 jeunes qui se réunissent chaque semaine, dans plusieurs endroits de la Suisse romande, dont 200 non-chrétiens. Aujourd'hui, on parle de Quiet Revival, c'est un réveil discret qui se passe en Angleterre, qui se passe en Suède, un petit peu dans l'église catholique française, et en Suisse romande, ça existe aussi. Les cours alpha, là, il y a eu à peu près une vingtaine de groupes de jeunes qui ont lancé un cours alpha jeune depuis le début de l'année. Il y a à peu près 5 groupes de jeunes qui ont plus de doublé. Les jeunes ont soif, ils sont prêts à aller dehors. Mais le problème, c'est qu'ils sont déconnectés de l'église locale. Comment les rejoindre? Ça, c'était mon autre message que j'avais au début. Mais je vous le fais court. Ces jeunes-là, ils ont besoin de père et de mère spirituelle. Ils ont besoin qu'on les encourage. Ils ont besoin qu'on leur tape sur l'épaule. Ils ont besoin qu'on leur dise, vas-y, mon gars, essaye. Pas, mais on a toujours fait comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Moi, tu me dis ça, je fuis. Moi, quand on me dit, mais on a toujours fait comme ça, je vais te poser cette question. Puis c'est quoi ton résultat? Ok. Est-ce qu'on essaye autrement? Et ces jeunes sont beaucoup plus connectés à la réalité de notre monde aujourd'hui que nous. Et c'est ensemble. 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Qu'est-ce qu'on bâtit ? Paul parle de 6 matériaux, or, argent, pierre précieuse, foin, paille, bois. En fait, il y en a qui résistent au feu, d'autres fondent directement ou brûlent directement. Il parle ici des œuvres, absolument pas du salut. Il n'est pas du tout en train de remettre en question le salut. Ils sont sauvés. Mais pourtant, l'œuvre de chaque croyant sera passée par le feu. Et tout sera révélé. Et il y a des choses qui vont être détruites. Moi, ça me remet quand même en question sur l'être et le faire. Quelles sont mes œuvres? Quelles sont les œuvres de Dieu au travers de moi? Quelles sont ces œuvres? On peut construire des choses impressionnantes, des projets visibles, des œuvres qui sont admirées, des ministères connus internationalement. Mais si elles sont faites pour notre image personnelle, pour couvrir nos propres blessures, pour de la reconnaissance, pour se comparer aux autres, si ce n'est pas avec une pureté de cœur, tout ça, ça ne demeurera pas. Et on ne bâtit pas pour aujourd'hui, on bâtit pour l'éternité. C'est sûr que c'est un petit peu compliqué pour notre conception de dire « je bâtis pour l'éternité ». J'aurais des récompenses dans l'éternité. C'est quoi ? On ne sait pas. Paul dit « si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, mais lui-même sera sauvé ». On ne parle pas du salut, mais notre œuvre sera brûlée et on va perdre une récompense. Vous, je ne sais pas, mais moi, je fais assez confiance à Dieu pour dire que cette récompense, elle sera plutôt stylée. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais je n'ai pas envie de la perdre. Alors, je ne fais pas ça pour ça, mais il y a quand même un truc en moi, je me dis, non, moi, je n'ai pas envie d'arriver au ciel et puis dire, non, dégoûté, je ne l'ai pas eu. Mais je ne veux pas que ce soit ma motivation, ok, on se comprend. Mais j'ai envie de voir ses œuvres. Et vous savez quoi ? Plus on est dans l'œuvre, plus notre foi grandit. Parce que plus on est dans l'œuvre, plus on voit Dieu agir, plus on voit ses fonctionnements, plus on connaît Dieu, plus on peut avancer. C'est magnifique. Mais ça nous demande de nous mettre en action et d'accepter de prendre des coups. On peut être sauvé, mais tout perdre. Donc la question c'est, y a-t-il des œuvres personnelles ? Mais y a-t-il des œuvres communautaires ? Et elles sont construites et faites de quoi ? Quels matériaux ? On travaille pour l'éternité et pour son royaume. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le « vous » là, il est collectif. Souvent on dit « oui, mais je suis le temple du Saint-Esprit ». Ouais, nous sommes. Nous sommes l'Église, nous sommes le temple. Nous sommes une pierre du temple. Donc là, il y a une dimension très collective. Et quand il parle d'Église, là, ce n'est pas le bâtiment. Parce qu'en grec, bâtiment de l'Église, ça serait écrit « hieron ». Mais là, en grec, c'est « naos ». Et « naos » veut dire en fait « sanctuaire », »,« lieu saint ». Ça fait référence à un lieu vivant où Dieu habite. C'est saint. Et en fait, quand il nous parle de nous en tant que temple, il n'est pas en train de dire « vous, bâtiment ». Il est en train de dire « vous, lieu saint ». Et ça, de nouveau, c'est important de comprendre. Nous sommes un lieu saint. Nous sommes le lieu saint. Nous sommes l'Église remplie de l'Esprit. Et en fait, Paul affirme que cette Église est remplie de l'Esprit. Il affirme qu'ils sont sauvés. Mais il est en train de dire que si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira. Il n'est pas en train de parler des mauvaises œuvres, des gens qui se plantent, parce qu'on a tous le droit aux erreurs. Il est en train de parler aux gens qui sont en train d'essayer de détourner Corinthe, qui sont en train de détourner, pas dans le sens qu'on fait des erreurs, ok, mais qui sont vraiment comme ces faux docteurs, ces faux apôtres, ces personnes qui veulent vraiment bâtir ailleurs que sur le fondement de Christ. On n'est pas en train de remettre en question l'œuvre de celui qui construit dessus, mais qui se plante, parce que c'est nous tous, on se plante tous. Il est en train de parler, là, ceux qui sont en train de détruire cette œuvre, c'est ceux qui sont en train de faire en sorte que le fondement, là, ne soit pas Christ. Et ça qu'il est en train de dénoncer, là. Donc, moi, ça m'encourage encore. Ça veut dire que j'ai le droit de me planter. Et vous savez, j'ai eu un prof, là, qui vient des États-Unis, et il y a quand même une chose de bonne aux États-Unis, il y en a peut-être plusieurs d'autres, mais je veux en tout cas mettre celle-là en avant, c'est qu'ils ont la culture de l'échec qui est bonne. Et nous, en Suisse, en Europe, quand on échoue, on arrête. Parce qu'on a toute la honte. Vous savez quoi ? Eux, plus ils sont dans l'échec, plus ils sont reconnus. Plus ils ont des entreprises qui ont fait faillite, plus ils sont écoutés. Et c'est vrai. On a de l'expérience. Quand tu essayes un truc puis que tout marche, tu as vraiment de l'expérience. Alors, peut-être que ton truc il fonctionne puis tu peux le reproduire ou pas. Mais quand tu te plantes, puis que tu travailles sur toi-même, puis que tu réfléchis là où tu as fait des erreurs, puis que ça te force à corriger, puis réessayer, tu deviens persévérant, ça t'amène dans la patience, ça t'amène dans tellement de choses. Osons essayer et se planter. Puis après, c'est pas dire, ouais, mais tu vois, on t'a écouté et puis on s'est planté. Non. Ben, on n'a pas fait de compromis, on a plutôt pris une couleur, on a plutôt testé quelque chose, puis on s'est planté, mais c'est pas grave. On réessaye. Et on se relève. Et on doit se relever. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vraies. Et qu'il sait pendant qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Paul ici veut renverser la logique, que personne ne se trompe lui-même. On a besoin d'être renversé dans notre logique humaine. Si on ne renverse pas notre esprit charnel, ça va être compliqué. Paul en parle beaucoup dans Romains, de sa lutte qu'il a entre sa chair et la vie de l'esprit. Mais la sagesse du monde est folie devant Dieu. Le monde valorise l'éloquence, le prestige, la culture, la philosophie, les savoir-faire, les savoir-être. Toutes ces choses que le monde aujourd'hui veut valoriser. Ce n'est pas ce que Dieu valorise. Lui, Dieu, il regarde au cœur. Et on s'en fiche de savoir le ministère qu'on est en train de bâtir. Parce que ce n'est pas centré sur nous. C'est centré sur Christ. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Cephas, le monde, la vie, tout ça nous appartient. Autrement dit, pourquoi vous diviser pour des hommes alors qu'ils sont tous au service de votre croissance? C'est ça que Paul est en train de dénoncer. Vous êtes en train de diviser pour savoir de qui vous appartenez, qu'est-ce qui est le mieux dans tout ça, alors que toutes ces choses-là vous appartiennent, parce que tout ça est au service de votre croissance spirituelle. Croissance dans votre maturité, croissance dans le numérique, croissance dans vos dons, croissance en toutes choses. Et si on ne comprend pas que notre unité est de travailler à la croissance spirituelle dans nos vies, la croissance spirituelle pour que l'autre soit touché, on reste immature et dans la chair. Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit à ça, à travailler ensemble. Et dès qu'on sent de la rivalité entre nous, dès qu'on sent de la jalousie, dès qu'on sent tout ça, ça doit nous alarmer. Et de dire, mais mince, là, je ne suis pas aligné à la volonté de Dieu, je ne suis pas en train de maturer avec l'Esprit, je suis en train de réfléchir avec ma chair. Et je suis en train de m'éloigner de la volonté de Dieu. On a le droit de se frotter, on dit le frère aiguise le frère. Moi, j'aime me frotter, puis des fois, ça chauffe un peu. Mais ça doit toujours être dans l'amour, se rappeler qu'on n'est pas dans la rivalité, qu'on est ensemble, dans un but de faire croître. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Ce n'est pas qu'on est à Paul ou à Apollo, c'est tout ça. On est à Christ et Christ, lui, est à Dieu. Et quand on comprend cela, justement, la jalousie tombe. Ben, je me dis, mais trop beau. Moi, j'aime voir des gens qui sont bien plus pastorales que moi et prendre soin des autres. Je n'ai pas trop ce don-là, je l'ai, bien sûr, mais il y a un moment, je sature. Et je suis heureux de voir des gens qui sont beaucoup plus pastorales que moi. Et Dieu m'a donné une épouse excellente là-dedans qui me complète. Et je ne suis pas en train de jalouser ma femme, je suis en train de me dire trop bien. Quand elle me rappelle qu'il faut un peu plus s'aimer des fois, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et je me repens. Mais je dois apprendre à travailler avec les dons qui sont autour de moi. Il y a des gens qui sont bien plus insidus dans le fait d'enseigner, qui creusent tellement plus que moi. Oui, j'aime ça, mais je ne veux pas te jalouser, c'est ton don. Mais trop bien qu'on travaille ensemble. Puis peut-être que des fois, on devrait oser être encore plus humble. Et des fois, je me dis, en toute humilité, mais de le dire comme ça, ben, tu sais quoi, travaille le message, mais je le prêche. Parce qu'il y a des très bons enseignants qui savent creuser la Bible, mais qui sont justement, s'arrêtent un peu sur le messager, parce qu'à le donner, il n'est pas terrible. Mais il y a tellement d'informations que des fois, ils ne savent pas comment leur donner. Puis des fois, on devrait se dire, mais on se partage tout, parce qu'on s'en fiche de qui a la gloire devant, vu que c'est Christ. Mais ça nous demanderait tellement de renverser notre logique humaine. Ça nous demanderait d'être beaucoup plus à l'écoute. En conclusion, Corinthiens 3 nous rappelle de grandir spirituellement. Ensemble, de maturer, de vivre une croissance, qu'elle soit dans notre caractère, qu'elle soit dans l'Église, mais ensemble, sortir de cette enfance. Et pour sortir de l'enfance, c'est cette lutte, et gagner cette lutte, de vie par l'esprit et non par la chair. Il nous rappelle de bâtir, mais de construire avec des matériaux qui sont éternels. De bâtir ensemble. Et pour bâtir, c'est ensemble. C'est pas seul. On se complète. Humilité, unité. Il faut agir. Pas juste rester à attendre que les choses se fassent et chercher la gloire de Dieu, pas la nôtre. Ni la gloire de l'Église, ni la gloire d'un pasteur, ni la gloire de peu importe. Ce que Dieu veut. Et ce qui est important, c'est de protéger l'unité du temple, de l'Église. Et on doit protéger cette unité, on doit travailler ensemble. Et c'est important de travailler ensemble, les générations. Je vous rappelle, les jeunes, ils ont besoin de pères et de mères spirituelles. Ne vous inquiétez pas, je leur dis qu'ils ont besoin d'aller vers ces pères et ces mères spirituelles, puis un petit peu d'écouter ce qu'on leur dit. Il faut filtrer, mais il faut écouter. Aujourd'hui, ils ont tendance un peu trop à jeter. Et on a besoin des générations qui sont des sentinelles, qui prient. On a besoin de travailler ensemble pour veiller à cette unité-là. Mais c'est possible. Et tout le monde va être bousculé. Parce qu'il y a une partie où les plus anciens vont se dire « Oui, mais ça bouge un petit peu trop pour moi. » Et puis les jeunes, ils vont se dire « Oui, mais ça ne bouge pas assez pour moi. » Oui, mais regarde, là, on a fait des concessions et non des compromis. Et là, toi, tu fais des concessions là et eux, ils font des concessions là. Et quand on se rend compte qu'on ne fait pas juste des compromis, mais que chacun fait des concessions, ça libère. Et on attend d'être libéré là-dedans. Donc, protéger l'unité de ce temple. Alors, la question pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va construire pour demain ? Et est-ce que je vais être un spectateur ou un ouvrier ? Et ça, la question se pose. Est-ce que je vais être un spectateur ou un ouvrier ? Et qu'est-ce qu'on va bâtir sur ce fondement qui est Christ ? Je vous bénis pleinement là-dedans. Que le Seigneur vous fortifie. J'espère que le diable n'est pas venu mettre de la condamnation et de la culpabilité, parce que c'était en tout cas pas de moi. Parce qu'il n'y en a pas. Le but, c'est d'être libéré dans un message comme ça. Et vraiment, que le Seigneur vous fortifie dans votre foi, dans vos émotions. Je sais que vous vivez une période de deuil qui n'est pas facile. Mais Dieu est là et il est présent. Et il ne nous abandonne jamais. Donc soyez vraiment encouragés par ce message et que vous puissiez laisser l'Esprit vous faire maturer ça.